France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire tragique de Maurice Audin, assistant à la faculté des sciences d'Alger, membre du Parti communiste algérien. Nous sommes en 1957. La bataille d'Alger ensanglante la capitale de la colonie française. Le général Massu a reçu les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre par tous les moyens, y compris les pires. C'est dans ce cadre que Maurice Audin est arrêté par les parachutistes le 11 juin. Son épouse et ses enfants ne le reverront jamais. Le jeune homme est officiellement disparu. L'armée maintient qu'il s'est évadé lors d'un transfert. Et il faudra plusieurs dizaines d'années, 61 exactement, pour que l'État reconnaisse que Maurice Audin a été torturé et assassiné par l'armée française et que l'État est responsable de sa mort. Notre invitée aujourd'hui, Sylvie Tenot, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'Algérie. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Il est 23h ce 11 juin 1957 quand des parachutistes et des policiers cognent à la porte d'un appartement au troisième étage d'un HLM de la rue Flaubert à Alger. À l'intérieur, tout est calme. Les trois enfants, Michel, 3 ans, Louis, 1 an et demi et Pierre, 1 mois, dorment tranquillement. Les parents sont couchés, il y a le couvre-feu à Alger. Brutalement, les paras entrent, repoussent la jeune femme dans une chambre et se saisissent de son mari. Vous l'arrêtez, mais pourquoi? Où l'emmenez-vous? Pas de réponse. Mais en sortant, l'un d'eux finit par lâcher. Vous le reverrez s'il est raisonnable. Raisonnable. Cette jeune femme s'appelle Josette Audin. Elle a 26 ans. Jusqu'alors, avant cette guerre, que les autorités s'obstinent à appeler opération de maintien de l'ordre, la famille Audin avait tout pour être heureuse. Heureuse, oui, mais pas insouciante. Josette Audin évoquait cette période dans un article de l'Humanité du 13 novembre 2000, signé Mina Kassi.
Nous étions un couple enthousiaste, comme pouvaient l'être beaucoup de jeunes de notre génération. Simplement, nous étions révoltés par le colonialisme. Nous ne supportions pas de voir des gosses algériens cirer les chaussures dans les rues au lieu d'aller à l'école, ou le mépris affiché envers la population algérienne d'origine. Au marché, si le vendeur était arabe, tout le monde le tutoyait. Nous ne l'acceptions pas.
Maurice Audin est arrêté. Mais pour quel motif? Aucune charge précise n'est notifiée, aucune instruction menée. Les parachutistes, alors maîtres d'Alger, arrêtent qui bon leur semble. Dans le cas d'Audin, sans doute veut-on lui faire dire où se cachent les responsables communistes activement recherchés. La veille, un autre communiste a été arrêté et torturé, Georges Adjaïj, un médecin. Ses bourreaux veulent savoir où se cachent Paul Caballero et André Moine, les deux principaux responsables du Parti communiste algérien, ainsi qu'Henri Allègue, directeur du journal Alger Républicain, tous passés à la clandestinité depuis l'interdiction du parti dissous par les autorités en septembre 1955. Lorsque les parachutistes menacent Adjaïj, jusqu'alors muet, de torturer sa femme sous ses yeux, il craque. Et il reconnaît avoir soigné quelque temps plus tôt Paul Caballero, caché chez les Audin. Immédiatement, les paras filent arrêter Maurice Audin. Ils le conduisent à El Biar, un immeuble en construction de 7 étages, et le passent immédiatement à la question. Georges Adjaïj le confirme dans Le Monde du 7 juin 1960.
J'ai vu Audin à deux reprises lors de mon séjour dans l'immeuble d'El Biar. La première fois, c'est pendant la nuit du 11 au 12 juin 1957. On est venu me chercher pour me faire répéter devant Audin ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'avais soigné chez lui M. Caballero. Il y avait par terre une porte sur laquelle étaient fixées des lanières. Audin y était attaché, nu, à part un slip. Des petites pinces reliées à la magnéto par des fils étaient fixées d'une part à son oreille et d'autre part à sa main. J'ai ensuite regagné la chambre de l'infirmerie où j'avais été amené dans l'après-midi à la suite d'une crise de tétanie que l'électricité avait provoquée. De là, j'ai pu entendre les cris plus ou moins étouffés d'Audin.
Les tortures infligées à Audin sont confirmées par le témoignage d'Henri Allègue. Le 12 juin, au lendemain de l'arrestation de Maurice, le journaliste passé chez Léodin tombe dans le piège. Car un policier était maintenu en faction, autant pour interdire à Josette de sortir ou d'alerter qui que ce soit par téléphone, que pour arrêter tel ou tel visiteur intéressant. Et, précisément, Alleg est un visiteur intéressant. Arrêté et conduit aussitôt à Elbiar, il y subit le même sort que Maurice Audin. Ce qui n'est pas surprenant, comme il le relatait dans le film La Disparition, celle d'Audin, réalisé par François de Merliac en 2008.
Des gens comme Maurice et d'autres, et comme moi-même, nous savions que le jour où nous serions arrêtés, quelles que soient les circonstances, nous serions torturés. Parce que c'était la règle. À partir d'un certain moment, c'était la règle. Les gens qui sont arrêtés pour des motifs politiques, tous, je dis bien tous, peut-être une exception, mais tous, les gens qui étaient arrêtés étaient torturés.
Dans la question, témoignage écrit en prison sur des feuilles de papier toilette, publié par Jérôme Lindon aux éditions de Minuit en février 1958 et interdit 6 semaines plus tard, Henri Alleg raconte les tortures qui lui ont été infligées. Et il cite le nom de ses tortionnaires, ceux-là même qui s'acharnent sur lui depuis la veille. Le lieutenant André Charbonnier et le lieutenant Hérulin en particulier. Dès le jour de son arrestation, après une éprouvante séance de torture à l'électricité suivie de claques monumentales, Alleg est mis face à Audin. Il relate ainsi la scène. Bref.
Allez, Audin. Dites-lui ce qu'il attend. Évitez-lui les horreurs d'hier soir. C'était Charbonnier qui parlait. Hérulin me releva la tête. Au-dessus de moi, je vis le visage blême et hagard de mon ami Audin, qui me contemplait tandis que j'oscillais sur les genoux. « Allez, parlez-lui, » dit Charbonnier. « C'est dur, Henri, » dit Audin. Et on le ramena.
C'est la dernière fois qu'Henri Alleg voit Maurice Audin. Le samedi 15 juin, 4 jours après l'arrestation de Maurice, Josette peut enfin sortir. Elle cherche en vain à avoir des informations sur l'endroit où est son mari. Elle alerte l'université, elle se rend à la permanence du collectif d'avocats qui défend les nationalistes. Ils sont en métropole, mais se rendent par roulement en Algérie. Deux d'entre eux, Pierre Braun et Jules Borker, prennent le dossier en main. Des télégrammes sont envoyés au président de la République et au président du Conseil. Le 19 juin, la commission de sauvegarde des droits et des libertés individuelles, instaurée 2 mois plus tôt sous la pression de l'opinion, pour enquêter sur les violations des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre et l'armée française, inspecte le centre de triage d'Elbiar. Oui, centre de triage. C'est le nom officiel de ces lieux où les prisonniers sont généralement torturés avant d'être envoyés en prison, en tout cas pour ceux qui en sortent vivants, et jugés à la va-vite. On en a dénombré plusieurs dizaines en Algérie. Avertis de la visite de la commission, les parachutistes sortent d'Elbiar les prisonniers les moins présentables, et notamment Audin, Hadjadj et Alleg. C'est à ce moment-là que Georges Hadjadj voit Maurice Audin pour la dernière fois. Extrait de son témoignage paru dans Le Monde du 7 juin 1960.
On nous transféra, Audin et moi, dans une petite villa située à 1 kilomètre du lieu où nous étions détenus. Audin a pu me raconter les sévices qu'il avait subis. Il en portait encore les traces. Il avait subi l'électricité. On lui avait fixé les pinces, successivement à l'oreille, au petit doigt de la main, au pied, sur le bas-ventre, sur la verge. Il avait eu l'eau aussi. À cette occasion, il avait perdu son tricot parce qu'on s'en était servi pour emmailloter sa figure avant de glisser entre ses dents un morceau de bois et le tuyau. Et puis bien sûr le parachutiste, qui lui sautait sur l'abdomen pour lui faire restituer l'eau qu'il avait absorbée.
Le 21 juin, Paul Tedjen, secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, est informé de l'arrestation d'Audin par l'avocat Jules Borker. Paul Tedjen connaît la torture pour l'avoir subie entre les mains de la Gestapo. Il a officiellement interdit aux policiers de la pratiquer, mais en vain. Depuis que Massu et ses hommes ont les pleins pouvoirs de police, il sait que c'est une pratique courante, pas seulement tolérée, mais acceptée, voire recommandée. Tedjen utilise alors la seule ressource à sa disposition pour offrir une maigre protection aux prisonniers. Il signe une assignation à résidence, ce qui rend les officiers parachutistes responsables de ce prisonnier et de ce qui peut lui arriver. D'ailleurs, le lendemain, soit le 22 juin, Josette Audin reçoit un courrier du directeur de cabinet de Robert Lacoste, ministre résident en Algérie. Il est l'équivalent d'un gouverneur général, qui l'informe ainsi. Votre mari est en très bonne santé et il vous sera accordé prochainement l'autorisation de communiquer avec lui. Mais sait-il que le jour où Josette Audin lit cette lettre, son mari est mort depuis la veille au soir? Peut-être pas, mais les parents de Massu le savent, eux. Audin a semblé-t-il été étranglé par le lieutenant Charbonnier, pris d'un accès de fureur face au silence obstiné de son prisonnier. C'est du moins la version officieuse qui circule pendant la guerre. Mais un Européen tué par les paras, ça fait mauvais genre. Ces derniers, Charbonnier en tête, inventent alors une fable, celle de la disparition, qui donne à peu près ceci. Emmené dans une jeep pour être conduit au commissariat de police pour un interrogatoire, Maurice Audin a profité d'un virage serré pour sauter hors du véhicule qui avait dû ralentir et s'évanouir dans la nature. On fignole même. Le sergent qui accompagnait le prisonnier, ayant failli à son devoir, est comme de 15 jours d'arrêt de rigueur. C'est en tout cas ce qu'indique le rapport de l'accident. Pour l'armée, l'affaire est claire et nette. Maurice Audin est désormais un disparu. Il le restera officiellement pendant plusieurs dizaines d'années. Le 1er juillet, Josette Audin est informée que son mari s'est évadé. Mais elle n'est pas dupe. Elle comprend qu'il est mort. En métropole, la disparition d'Audin est signalée dans le journal L'Humanité, qui publie également la plainte qu'Henri Allais rédige depuis la prison où il a été transféré. Il y dénonce les tortures dont il a été victime. Le Monde, l'Express suivent également l'affaire. Le cas de Maurice Audin retient tout particulièrement l'attention d'un jeune assistant d'histoire à la faculté de Caen, Pierre Vidal-Naquet. Il se mobilise dans une logique de refusarde, au nom d'une France nation garante des droits de l'homme. Vidal-Naquet écrit au Monde un courrier des lecteurs, estimant que la disparition de Maurice Audin et l'absence totale d'informations sur ce qui lui est arrivé est insupportable. Début septembre, il reçoit une lettre de Josette Audin. Elle écrit ainsi à tous ceux qui, à travers le courrier des lecteurs de journaux, semblent s'intéresser au sort de son mari. Voici un extrait des mémoires de Pierre Vidal-Naquet, paru en 1998 aux éditions Le Seuil La Découverte.
Josette Audin insistait dans cette lettre sur le fait que le cas de son mari n'avait rien d'exceptionnel et que des Algériens musulmans disparaissaient tous les jours. Et c'était vrai. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'un Européen, membre de l'enseignement supérieur, assistant comme je l'étais moi-même, donc doublement privilégié en principe, s'évanouisse dans la nature. Il est vrai qu'on parlait d'évasion, mais comment expliquer qu'un homme marié, père de 3 jeunes enfants, puisse disparaître, voire passer au maquis, sans avertir les siens d'un mot ou d'un appel téléphonique?
Vidal-Naquet prend immédiatement l'affaire à cœur et à bras-le-corps. Il propose à Josette Audin de rédiger un fascicule sur cette disparition et se lance dans une enquête comme le ferait un juge d'instruction, dit-il. Oui, il étudie toutes les pièces du dossier, pointe des contradictions flagrantes entre les procès-verbaux et les témoignages recueillis par les enquêtes militaires puis civiles. Entre autres, comment Audin, que plusieurs témoignages décrivent comme étant de constitution fragile, vraisemblablement encore plus fragile après les séances de torture, aurait-il pu fuir, sauter d'une voiture en marche, échapper aux tirs de mitraillette? Au passage, aucune balle n'a été retrouvée sur les lieux. Pourquoi Audin, habituellement menotté comme le sont tous les prisonniers qu'on conduit d'un endroit à un autre, ne l'aurait-il pas été cette fois-là? Et pourquoi le commissariat de police où Audin devait prétendument être emmené n'était-il pas au courant de l'arrivée de ce prisonnier? Dans la foulée, un comité Maurice Audin est créé qui rassemble un certain nombre de personnalités sensibilisées par l'appel que Josette Audin a lancé dans le Monde, appel dans lequel elle affirme sa certitude que son mari était torturé. Ce comité a deux objectifs: dénoncer la torture qui sévit en Algérie et faire la lumière sur la mort de Maurice Audin. Dans « L'affaire Audin », publié en 1957, le fascicule initialement prévu est devenu un livre. Vidal-Naquet dissèque le rapport sur l'évasion du détenu Audin rédigé par l'armée, le croise avec les témoignages des différents témoins de l'évasion, scrute un plan des lieux, y inscrit le parcours de la Jeep. Rien de tout cela ne tient debout. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'affaire, sauf pour l'armée, qui n'en démord pas, Maurice Audin est bien mort sous la torture. Le 25 septembre, à la tribune de l'Assemblée, le député communiste Jacques Duclos accuse formellement les parachutistes d'avoir assassiné Maurice Audin. Le ministre résident Robert Lacoste reconnaît qu'il y a un problème et rappelle qu'une enquête est ouverte. De fait, le 4 juillet, Josette Audin a déposé plainte contre X pour homicide volontaire, mais elle refuse d'en dire plus.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Aujourd'hui, l'affaire Maurice Audin.
France Inter, affaire sensible.
En métropole, à la faveur de l'affaire Audin, en particulier un peu plus tard de la publication de la question d'Henri Allègue, on commence à faire le procès de la torture. Des voix se sont élevées depuis le début des années 50 contre cette pratique, de grandes voix. Celle de Mauriac, qui dès janvier 55 la dénonce dans les colonnes de l'Express à travers un dialogue qu'il entretient avec un ami qui travaille dans la région de Constantine. En voici un extrait. C'est l'ami en question qui parle.
Ils n'ont pas renoncé au coup de nerf de bœuf, vous savez. Mais la baignoire, ou plutôt le baquet d'eau sale où la tête est maintenue jusqu'à l'étouffement. Mais le courant électrique sous les aisselles et entre les jambes. Mais l'eau souillée introduite par un tuyau dans la bouche jusqu'à ce que le patient s'évanouisse. Cela ne laisse guère de traces en effet, pas plus que les goulots de bouteilles enfoncées.
Au même moment, Claude Bourdet, ancien membre du Conseil national de la Résistance, publie dans France Observateur un article du même tonneau. Il y interpelle le gouvernement sous le titre « Votre Gestapo d'Algérie ». Et le gouvernement réagit. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur du gouvernement de Pierre Mendès France, confie à Roger Vuillaume, inspecteur général de l'administration, une enquête sur les sévices policiers en Algérie. Et ses conclusions sont claires. La police torture en Algérie. Et depuis longtemps. Et cela est tellement admis, tellement habituel, que Vuillaume suggère non de bannir ces pratiques, mais d'en autoriser quelques-unes, de les réglementer en quelque sorte. Extrait de son rapport, lu par un comédien dans une émission de France Culture en 1987.
On recommande les méthodes utilisant l'eau et l'électricité parce que, pourvu qu'elles soient utilisées avec précaution, elles produisent, dit-on, un choc plus psychologique que physique et ne constituent donc pas une cruauté excessive. Selon l'opinion de certains médecins qui m'a été communiquée, La méthode du tuyau d'eau, si elle est utilisée comme indiqué ci-dessus, ne fait courir aucun risque à la santé de la victime. Ce n'est pas le cas de la méthode électrique qui peut être dangereuse si on l'utilise sur une personne dont le cœur est affecté de quelque manière. J'incline à croire que ces méthodes sont acceptables et que si elles sont utilisées de la manière contrôlée qui m'a été décrite, elles ne sont pas plus brutales que la privation d'aliments, de boissons et de tabac qui a toujours été admise.
Mais des voix s'y opposent jusqu'au cœur de l'État. On ne va quand même pas officialiser la torture. Il n'empêche, les témoignages s'accumulent. Jean-Jacques Servan-Schreiber, jeune fondateur de l'Express, mais surtout lieutenant en Algérie où il a passé 6 mois comme réserviste, en fait le récit en feuilleton dans son journal une fois rentré en métropole. Poursuivi pour atteinte au moral de l'armée, il s'adresse à son ancien chef, le général Jacques Paris de la Bollardière, pour lui demander son soutien. Oh, un personnage, ce Bollardière, un grand soldat bardé des décorations les plus prestigieuses, courageux, respecté, admiré, aimé de ses hommes, et non violent. En désaccord avec la façon de faire de Massu et de ses parachutistes, il vient de demander être relevé de son commandement. Le 29 mars 1957, Jean-Jacques Servan-Schreiber publie dans l'Express la lettre du général de Bollardière. Elle est concise, claire et précise. Elle dit notamment...
Je pense qu'il était hautement souhaitable qu'après avoir vécu notre action et partagé nos efforts, vous fassiez votre métier de journaliste en soulignant à l'opinion publique les aspects dramatiques de la guerre révolutionnaire à laquelle nous faisons face et l'effroyable danger qu'il y aurait pour nous à perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l'efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu'à maintenant la grandeur de notre civilisation et de notre armée.
Il paie ses paroles de 2 mois de forteresse. Pour quelques courageux comme Bollardière, ou comme le sergent parachutiste Noël Favrelière, qui en 5 août 56 préfère déserter avec son prisonnier plutôt que de l'exécuter comme on lui commande, combien d'autres ont obéi aux ordres, se sont habitués, y ont pris du plaisir peut-être. Mais toutes les accusations portées dans la presse ou dans les brochures sont au mieux ignorées, au pire niées. Ceux qui s'en font l'écho sont des ennemis de la France, des traîtres, ils veulent saper le moral de la nation. Comment pourrait-on torturer de façon systématique au pays des droits de l'homme? Enfin, impossible. Et si tant est que cela arrive, il s'agit de regrettables exceptions à mettre sur le compte d'individus isolés. Certes, on finit par reconnaître la pratique d'interrogatoire musclé, selon l'euphémisme en vigueur, mais ils sont, disent-ils, indispensables pour éviter de nouveaux attentats du FLN. En résumé, on ne torture pas. Et s'il arrive qu'on le fasse, c'est pour sauver 2, 3, 20 Européens d'un attentat aveugle. Argument balayé par Jacques de Bollardière dans un film de 1974, réalisé par André Gazu et Pierre Stucki, produit et diffusé par la télévision suisse-romande, superbement ignoré par la télévision française.
Sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans. « Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place ». Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN.
De son côté, le mathématicien Laurent Schwartz, président du comité Audin, écrit dans Le Monde du 26 octobre 1961 sous le titre « Simple vérité » que les tortures sont, je le cite, directement encouragées par des ministres en exercice, messieurs Robert Lacoste, Max Lejeune, Maurice Bourgès-Monoury. Pierre Vidal-Naquet renchérit dans une interview donnée à la radio publique en 1972.
Ce qui m'a frappé, ce qui m'a bouleversé dans la guerre d'Algérie, c'est que les faits de torture dont il s'agissait n'étaient pas des faits individuels, il ne s'agissait pas d'accidents, il s'agissait d'un système dans lequel l'État tout entier, notre État, s'était trouvé peu à peu engagé jusqu'à aboutir à une dégradation dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences.
Pour Josette Audin, comme pour tous les membres du comité Audin, ils font continuer à parler sans relâche de Maurice. Et c'est dans cette logique que le 2 décembre 1957, sa thèse de mathématiques qu'il avait quasiment terminée avant de tomber aux mains des parachutistes, est soutenue à la Sorbonne in absentia, c'est-à-dire en l'absence de l'intéressé, devant un grand amphi plein à craquer. Josette Audin est là, la mère de Maurice également, François Mauriac aussi. Maurice Audin y est représenté par René de Possel, son patron à la faculté des sciences d'Alger, et Laurent Schwartz, qui est donc à l'initiative de cet événement largement couvert par la presse. Et il en est le rapporteur. Ce travail reçoit la mention « fort honorable » et Audin est proclamé docteur. La soutenance de la thèse et l'écho qu'elle a eu relancent mollement l'instruction, mais la justice militaire d'Alger continue à imposer sa loi. En février 59, elle conduit le procès de plusieurs communistes pour reconstitution de ligue dissoute et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Parmi les accusés figurent Henri Alleg et Maurice Audin, toujours officiellement considérés en fuite. Nouveau commentaire de Pierre Vidal-Naquet dans l'affaire Audin, dans la version enrichie de 1989.
La justice militaire, qui avait bloqué toutes les plaintes en sévices qui lui avaient été soumises, se préparait imperturbablement à juger un mort. Et ceci dans des conditions assez particulières, puisqu'au terme d'un article du Code d'instruction militaire en vigueur à l'époque, aucun conseil, aucun avoué ne pourra se présenter pour défendre l'accusé jugé par contumace.
Il faut attendre le début de l'année 60 pour que la justice ait un nouveau droit de cité. Le dossier judiciaire de l'affaire Audin est dépaysé à Rennes pour la sérénité des débats, selon l'expression consacrée. Le juge d'instruction, Étienne Hardy, fait son travail. Il convoque un certain nombre des militaires, dont Massu, Charbonnier et Ossarès. Ce dernier est alors le commandant de Charbonnier. Et il refera parler de lui dans les années 2000 en reconnaissant, sur le tard, l'usage généralisé de la torture et sa responsabilité directe dans le sort de certains suicidés. Ces hommes ne se rendent pas chez le juge de gaieté de cœur. Celui-ci doit faire intervenir à deux reprises le ministre de la Justice, Edmond Michelet, pour qu'il s'y résolve. On se doute que la version des parachutistes reste inchangée. Dans son ouvrage de 1989 sur l'affaire, Pierre Vidal-Naquet relate ainsi les explications que le capitaine Charbonnier sert au juge.
Bien entendu, il nia tout, y compris l'existence de la torture, cette invention de la propagande communiste. Oui, il connaissait l'accusation qui pesait sur lui et aurait porté plainte en diffamation contre le comité Maurice Audin s'il en avait eu l'autorisation. Il était clair qu'il avait lu de près l'affaire Audin, qui mettait en lumière toutes les incohérences de ses comptes rendus, car il s'efforça de boucher les trous de son emploi du temps.
Quant à Massu, il se réfugie derrière les directives gouvernementales qui étaient, je cite, « d'arriver coûte que coûte à la destruction, à l'extermination sans ménagement de l'organisation rebelle et de tous ses satellites, en particulier le Parti communiste algérien ». Comme ça, c'est clair. Le juge d'instruction convoque Robert Lacoste, mais cette demande est bloquée. Et puis arrivent les accords d'Évian en mars 62, qui mettent fin à la guerre et définissent les conditions d'indépendance de l'Algérie. Ces accords prévoient également une amnistie générale. Un décret déclare notamment amnistier les faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne. Comprendre les tortures, meurtres individuels et collectifs, exactions diverses. L'instruction est close, le juge Hardy signe une ordonnance de non-lieu. Sur la mort de Maurice Audin, sur le nom et la responsabilité précise de tous ceux qui sont impliqués dans son assassinat, sur le lieu de sa dépouille également, ni vérité ni justice. Mais Josette Audin ne désarme pas. La figure et le nom de son mari restent vivants et reparaissent régulièrement dans la presse. En 2001, elle est l'une des signataires de l'appel des 12 qui sollicite de Jacques Chirac, président de la République, et de Lionel Jospin, premier ministre, une condamnation officielle de la torture pratiquée en Algérie au nom de la France. Cet appel ne recueillera que quelques belles paroles sans suite du premier ministre sur un nécessaire travail de vérité. Josette Audin s'exprime d'une voix douce, parfois presque un murmure, mais elle cache une ténacité d'acier. Elle refuse qu'on continue au plus haut niveau de l'État à observer un silence indifférent, ou coupable, ou complice. Et le 21 juin 2007, 50 ans jour pour jour après l'assassinat de son mari, elle écrit une lettre ouverte au président de la République, publiée par l'Humanité sous le titre Vérité pour Maurice Audin, dont voici un extrait.
Je ne demande pas, Monsieur le Président, dans le cadre de cette démarche, que s'ouvre un procès des tortionnaires meurtriers de mon mari. Sachant que des lois d'amnistie les couvrent, même si je pense que la justice française se grandirait en appliquant une jurisprudence internationale pour laquelle aucune affaire criminelle ne peut être éteinte tant que le corps reste disparu. Je vous demande de ne pas laisser enfoui dans la fosse commune de l'histoire sans rendre au moins son identité et sa vérité à un homme qui avait tellement l'Algérie au cœur et dont les convictions de jeune mathématicien et de militant communiste était si pur qu'il s'est dressé contre des méthodes barbares.
Le président s'appelle alors Nicolas Sarkozy. Il ne répondra jamais à cette lettre. Son successeur, en revanche, ouvre une brèche. En 2014, François Hollande clôt officiellement la thèse de l'évasion et reconnaît qu'Audin est mort lors de sa détention. Commentaire de l'historienne Sylvie Thédot dans le journal de France 24.
Il y a un progrès parce que François Hollande reconnaît que cette évasion était en fait un mensonge. Là où il reste un pas à faire, c'est de reconnaître que Maurice Audin n'est pas simplement mort durant sa détention comme un prisonnier qui se serait suicidé dans sa cellule, par exemple, mais qu'il est mort durant sa détention alors qu'il était soumis à des tortures et qu'il était sous la responsabilité des militaires. Donc il manque un pas vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin.
Et ce pas est franchi le 13 septembre 2018. Devenu président de la République, convaincu par deux députés, Cédric Villani, macroniste, mais surtout mathématicien, et le communiste Sébastien Jumel, Emmanuel Macron reconnaît, au nom de la République française, que Maurice Audin a été torturé à mort par des militaires et que sa mort a été rendue possible par un système légalement institué. Emmanuel Macron se rend au domicile de Josette Audin en région parisienne où elle habite depuis 1966 et lui demande pardon au nom de la France. Josette Audin s'est éteinte peu après le 2 février 2019. Son combat aura porté ses fruits. L'État a reconnu sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin. Mais elle n'aura jamais su ce qu'il est advenu de la dépouille de son mari. Et ses tortionnaires n'auront jamais été jugés. Charbonnier recevra même la Légion d'honneur et sera élevé au grade de commandeur. Toute sa vie, Josette Audin aura eu sous les yeux une photo de son mari regardant l'objectif d'un air joyeux, confiant, incroyablement juvénile. Il tient le journal Humanité, dont on aperçoit le titre de l'éditorial « Paix en Algérie ».
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le sort dramatique de Maurice Audin en Algérie, dont nous allons parler avec notre invitée Sylvie Thédot. Bonjour.
Bonjour.
On vous a entendu la fin de ce récit. Vous êtes historienne, spécialisée dans la guerre d'Algérie. Vous venez de publier aux éditions Bouquin un dictionnaire de la guerre d'Algérie que vous avez coécrit avec Tramor Kemener et Ounassa Siari Tangour. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la guerre d'Algérie et plus particulièrement, je vais quand même préciser ma question, plus particulièrement à la justice pendant cette période, parce que c'était ça le sujet de votre thèse.
En fait, j'ai grandi en banlieue et dans la deuxième moitié des années 80, on était à cette époque lointaine aujourd'hui où le Front National commençait tout juste à s'installer dans le paysage politique français. Et à cette époque-là, on avait l'antiracisme bon enfant et léger, c'était très consensuel, donc j'étais dans cette vague-là. Et contrairement à l'idée qu'il y a eu une espèce de tabou et qu'on n'en parlait pas, on en parlait beaucoup. Et donc, moi, j'étais dans une ambiance où on évoquait beaucoup la guerre d'Algérie pour dire en deux mots à quoi le racisme peut conduire. Et donc, finalement, je suis devenue historienne avec l'idée naïve, mais c'était la mienne, qu'on peut tirer des leçons de l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'était la République en guerre et ses contradictions. Donc, la justice et le droit d'exception, on est complètement au cœur de tout cela.
Dans le pays des droits de l'homme.
Totalement.
Précisément, la dichotomie est là aussi, hein, c'est là que ça choque.
C'était le ressort majeur de l'engagement de quelqu'un comme Vidal-Naquet qui se réclamait de l'engagement de Dreyfusard, qui considérait que voilà.
Tout à fait, d'ailleurs on a évoqué ça, on a dit une logique Dreyfusarde. Alors la justice qui dans le cas d'Audin rend non-lieu sur non-lieu et donc se refuse à mettre en cause l'armée et spécifiquement les parachutistes, dont le récit comporte pourtant un nombre d'invraisemblances, hein, bon, pas, pour ne pas dire d'impossibilités, mais... Comment peut qualifier cette justice? Peut-on la qualifier? Est-elle digne de notre démocratie, qu'elle soit version 5e ou 4e République? Parce que je précise que ce drame de la guerre d'Algérie commence sous la 4e et continue sous la 5e.
En fait, j'ai rompu avec l'idée que la République est ce modèle idéal et infaillible. Hein. Ça, c'est un horizon, mais ce n'est pas une réalité. Donc, tout régime a sa part d'ombre.
Mais la Syrie est une République pour aller vraiment très très loin dans la comparaison.
Voilà. Et donc, cette justice, elle est dans le contexte d'une législation d'exception. La torture reste interdite, hein. Ça, elle est toujours restée illégale. C'est ce qui permet d'ailleurs qu'il puisse y avoir des plaintes et des instructions. Mais on est dans un contexte où, il faut absolument le rappeler pour cette histoire, les pouvoirs de police aux parachutistes de Massue, c'est une décision politique. Ça vient des pouvoirs spéciaux, loi votée pour le gouvernement de Guy Mollet. Et à la suite des pouvoirs des spéciaux, on arrive à cela. Donc, vous avez parlé du juge Hardy. Il a fait ce qu'il a pu. Il aurait peut-être pu faire plus. Mais ce qui compte, c'est qu'on est dans un contexte où le pouvoir politique ne veut pas de la vérité.
Et pourtant, il y a des aveux, Lacoste, qui dit, bon, la torture, c'est pas bien. On peut être un peu dur, mais voilà, il réglemente la torture. C'est un aveu. Non. Ben,
vous savez, même antérieurement, j'étais très contente que vous parliez de la torture avant la guerre. Hein. En 1949, il y a une circulaire du gouverneur général de l'époque qui dit qu'il ne faut pas pratiquer les sévices quand on arrête les nationalistes. Donc, on le sait, c'est toujours très frappant pour moi d'ailleurs aujourd'hui quand on dit on ne le savait pas. Vous lisez la presse de l'époque, vous avez lu Le Monde. Ben, dans Le Monde, en 1957, au printemps, avant l'affaire Audin, il y a... tous les jours, ou presque, des articles, et il y a un débat public sur la torture. Et avant Audin, on a dénoncé le soi-disant suicide de Larbi Ben Midi, le soi-disant suicide de Ali Boumengel. Donc, on le sait, hein, au moment où Maurice Audin est arrêté, on sait qu'à Alger, à ce moment-là, quand les parachutistes nous arrêtent, ben, on risque vraiment de mourir.
Surtout quand on est communiste. Parce que là, c'est une dimension très importante. Parce qu'il y a peut-être dans la tête des colons français, des dirigeants français, l'idée que probablement l'URSS et les partis communistes soutiennent le soulèvement algérien, évidemment. Et qu'avec les communistes français, on est une espèce de sous-marin, enfin des forces qui demandent l'indépendance, qui vont être très fortes avec le FLN. Donc les communistes sont une cible. Est-ce que c'est lié à ça ou... On est en pleine guerre froide, hein, je
Alors,
rappelle. Hein.
Oui,
s'il n'y a pas de déconnexion totale avec la guerre froide.
Ça, c'est plutôt la vision des militaires qui reviennent d'Indochine, hein, et qui pensent que l'ennemi communiste est maintenant en Algérie, même si assez rapidement on comprend que le FLN n'est pas communiste, quand même. Les communistes français, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand je vous parlais des pouvoirs spéciaux, les députés communistes votent la loi des pouvoirs spéciaux pour Guy Mollet. Vous avez dit hein, sur l'humanité là, que tient Maurice Audin dans les mains, c'est la paix en Algérie. Donc il y a une ambiguïté à la direction du PCF sur le sort de l'Algérie. Les violences sont dénoncées. Vous lisez l'humanité, c'est là que vous avez le plus d'éléments sur les violences de l'armée française. Mais l'idée de l'indépendance ne fait pas forcément consensus parce que le PCF, il est dans un jeu politique national. Donc, si on veut ménager la SFIO, ben, on va faire des concessions. En Algérie, c'est très différent. Le PCA, le PC algérien, Parti communiste algérien,
oui, PCA.
Où il y a aussi des lignes un peu fluctuantes. Mais sauf que les militaires en Algérie font l'amalgame entre les communistes et le FLN. Le PCA a aussi une diversité. Il y a à Alger un groupe qu'on appelle les combattants de la libération qui commettent des attentats. Par exemple, il y a eu Fernand Yvetot et sa fameuse...
Dont nous avons raconté l'histoire avant les vacances d'été, c'était au mois de mai.
Et donc, il y a des communistes qui sont investis dans les attentats. Mais ce n'est pas le cas d'Audin. Et ça, c'est vraiment très important à dire, parce que je dirais que dans le débat public à l'époque, on noue complètement la pratique de la torture à l'existence du terrorisme.
Et, oui.
Et donc, il y a toujours suspicion. Hein. Mais Audin n'a jamais trempé dans une quelconque action violente. Et c'est ce qui permet aussi la reconnaissance, d'ailleurs, parce que vous imaginez bien qu'un président de la République n'aurait jamais pris le risque de reconnaître la responsabilité de l'État si jamais quelqu'un avait pu dire « Non, mais vous vous rendez compte, cet homme-là a posé une bombe un jour ou participé à un groupe qui en posait.
» France Inter. Affaires sensibles.
Sylvie Tainot, nous avons évoqué au fil du récit la commission de sauvegarde des droits et des libertés individuelles instaurée au printemps 57 sous la pression de l'opinion publique. Cette commission a été impuissante dans le cas Audin, mais a-t-elle été par ailleurs, est-ce que par ailleurs elle a pu faire œuvre utile, d'une façon ou d'une autre, cette commission? Et c'est un machin ou ça, ça a servi?
Elle est utile pour nous aujourd'hui parce qu'elle a reçu tellement de dénonciations que ses archives sont précieuses pour nous aujourd'hui pour connaître les formes de la répression des indépendantistes algériens. C'est un machin, je ne le dirais pas dans ces mots-là.
Et j'ai posé la question, je ne l'ai pas affirmé non plus.
Oui, en fait, elle offre une solution à la dénonciation des tortures, parce que en 57, on est vraiment au printemps dans une dénonciation qui monte. Donc le gouvernement doit faire quelque chose. Désavouer les militaires, ça n'est pas possible. Mais il faut donner une réponse, parce que ce qu'il faut dire de façon vraiment cruciale, c'est que vous l'aurez compris, ce qui se passe à Alger à ce moment-là, c'est un système. Il y a, on ne sait pas combien, mais des centaines et des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont disparu comme Audin et bien avant lui. Donc la pression, elle arrive jusqu'à Paris parce que Audin est un universitaire, sa femme est très militante, donc son affaire arrive à Paris. Et, voilà. Mais les autorités à Alger reçoivent quotidiennement des plaintes de famille, des femmes qui vont à la préfecture, des pères, des frères qui disent « Voilà, on a arrêté tel ou tel membre de ma famille et on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Et alors la réponse « Il s'est évadé », elle n'est pas inventée pour Audin, c'est quelque chose qu'on répond déjà aux familles. Sauf que d'habitude, on ne va pas jusqu'à jouer une mise en scène parce qu'en fait, les familles rentrent chez elles et n'ont pas du tout le même capital politique et social et culturel pour faire monter l'affaire jusqu'à
Bien
Paris.
Sûr. L'Humanité a publié en février 2018 le témoignage d'un ancien appelé qui pense avoir enterré le corps de Maurice Audin. Parce que le mystère reste entier. Vous n'êtes pas enquêtrice, juge...
On ne sait pas.
Bon, voilà, vous ne savez pas plus que moi, pas plus que... Enfin, que pensez de témoignages comme celui-ci, par exemple, qui pense avoir enterré le corps de Maurice Audin? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose?
Plus le temps s'écoule, moins vous pouvez vérifier, donc tous les dires sont fragiles, et la mémoire a ses fragilités. Si on fait l'effort, chacun d'entre nous, d'essayer de se souvenir de choses qu'on a faites quand on avait 20 ans, il y a bien des distorsions.
Mais bien.
Donc ces dires-là sont tout aussi fragiles que d'autres, et c'est vrai que la localisation du corps reste quelque chose qui aurait été important certainement pour Josette, mais quand même très, très compliqué à faire.
Alors, Josette Audin, vous en parlez beaucoup, on en parle beaucoup, vous l'avez souvent rencontrée, vous avez souligné l'inusable ténacité de cette femme. Quel souvenir vous gardez d'elle?
J'ai envie de dire que je regrette un peu de ne pas l'avoir connue dans les années 50, mais je n'étais pas là, évidemment. Parce que c'est vrai que dans les images, par exemple, en septembre 2018, autour d'Emmanuel Macron, on voit une femme très affaiblie et très âgée. Les gens qui l'ont rencontrée jeune parlent de cette fragilité. Hein. Mais en fait, c'était avant tout une militante. Une militante qui a dédié sa vie, certainement au combat pour essayer de savoir la vérité sur son mari. Et ça, c'est vraiment dramatique qu'elle soit morte sans la connaître. Mais c'était vraiment une communiste, une militante communiste. En 2018, elle allait encore à la fête de l'UMA. Donc c'était aussi une continuité d'un engagement anticolonialiste, d'une dénonciation des violences de l'État, d'une dénonciation des violences de la torture. Josette Audin, elle est née en Algérie, dans une famille française d'Algérie. Et elle racontait bien qu'à l'époque, même au sein de sa famille, des gens désapprouvaient ses engagements. Donc c'est une femme, c'est une grande militante, vraiment. Et alors, aujourd'hui, où on fait quand même pas mal de travaux historiques, on essaye de revaloriser la place des femmes dans l'histoire. Je pense qu'on pourrait revoir l'histoire, cette affaire Audin, en regardant un peu moins Vidal Naquet, même s'il joue un rôle majeur, et un peu plus Josette Audin.
Oui. Nous, on a beaucoup cité Vidal Naquet.
Vous avez raison, mais on peut aussi déplacer le regard.
Vous pensez qu'il fallait un président né après la guerre d'Algérie pour que la responsabilité de l'État soit reconnue, comme c'était le cas avec Macron? Ça compte, ça?
Je pense, non, moi je ne pense pas que ce soit une question de naissance.
Bon, d'accord.
Ce n'est pas une question de génération. Mmh. Je modère.
Vous pouvez, il n'y a aucun problème.
C'est quand même un président formé à Sciences Po, grande école.
Ouais.
Les autres aussi. Hein. Ricoeur et la mémoire. Il est d'une génération où, dans les années 90-2000, autour de Vichy, c'est complètement installé l'idée que la mémoire est à prendre en charge et à prendre en compte par le politique. C'est là qu'il y a une rupture. Pour moi, c'est plus une rupture de culture politique et du rapport à la mémoire.
Parce qu'il y a effectivement un grand débat il y a quelques années entre la politique et les historiens qui doit être... Je cherche le
séparé
mot...
Séparé ou pas.
Ouais, c'est ça.
Bah, je ne vous dis pas que toute la politique et l'activisme mémoriel de Macron, les historiens en sont contents. Mais il y a une accélération certainement liée au fait qu'aujourd'hui, ça fait consensus que le pouvoir politique prenne en charge les questions mémorielles.
Parfait, ce sera le mot de la fin, Sylvie Tadeau. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Maurice Audin, La Torture en Algérie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Michel.